à la découverte de la création sonore et radiophonique. Une émission de 48 FM proposée par Guillaume Delorme. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de À la découverte de la création sonore et radiophonique sur 48 FM. Au programme de notre émission d'aujourd'hui, je vous propose d'écouter un documentaire d'Aurore Le Bihan intitulé « Mon travail ne sert à rien » entre bullshit job et quête de sens. Aurore conçoit des publicités sur le web pour des banques ou des marques de luxe. Au début, les paillettes du CDI et des tickets resto lui suffisent. Mais très vite, elle se demande pourquoi, après avoir dépensé 30 000 euros dans une école de commerce avec l'espoir d'une bonne carrière, elle se pose autant de questions sur le sens de son travail. Et puis, un jour, elle découvre l'existence du bullshit job ou du job à la con. Un bullshit job, pour Jean-Laurent Casselli, journaliste et auteur du livre « La révolte des premiers de la classe », c'est un métier qu'on ne peut pas expliquer à sa grand-mère. Chef de projet, community manager, responsable marketing, tous ces nouveaux boulots valorisés socialement mais dont l'impact sur la société est nul ou négatif et donne à ceux qui les occupent un fort sentiment d'inutilité. Elle enquête sur ce phénomène et rencontre celles et ceux qui pensent être plus utiles à boire des cafés au bar du coin plutôt que de passer leur journée à bullshitter. On découvre donc ce documentaire d'Aurore Le Bihan, réalisé en 2019, mis en onde et mixage par Arnaud Forest, réalisation Aurore Le Bihan, production arteradio.com.
Et toi, tu fais quoi dans la vie? Pendant 3 ans, cette question me terrorisait. Quand on me l'a posée à un dîner ou dans un bar, j'essayais d'abord de distraire mon interlocuteur. Quand ça ne marchait pas, je finissais par répondre. Je suis chef de projet web dans une régie publicitaire. Ça consiste à créer des publicités disruptives et des sites de brand content ou de native ad à destination des grandes marques. Comment ça, t'as rien compris? Tiens, reprends un petit verre de rosé. Pendant 3 ans, j'ai travaillé comme chef de projet dans la régie publicitaire d'un grand groupe média. Vous voyez les publicités clignotantes qui vous empêchent de lire tranquillement sur Internet? Bah, c'était moi. Sur mon CV, il y a marqué que j'ai 29 ans et le permis de conduire. J'ai mitonné sur ma mention au bac ES. J'ai mis bien, en pensant naïvement que ça ferait la différence, mais je n'ai eu que mention assez bien. Puis prépa HEC, que j'ai intégré au forceps pour faire plaisir à maman, et parce qu'avec mon poil dans la main, j'aurais rien foutu sur les bancs de la fac. Et enfin, école de commerce à Lille. Des cours de marketing, de stratégie des entreprises, de finance, de compta, et beaucoup trop de gens qui portent des polos. Tout ça pour un diplôme en 2011. Avec 14 matières en rattrapage, et un début de cirrhose. Pour trouver mon premier stage, j'envoie des lettres de motivation dans tous les sens.
Data scientist, marketing opérationnel, consultant, chef de projet en communication, contrôleur de gestion, chargé marketing.
Tout y passe. Je finis par atterrir comme stagiaire dans la régie publicitaire d'un groupe média. À l'issue du stage, je suis embauchée en CDI. Le Graal.
Alléluia !
La lune de miel est courte. Au bout de quelques mois, je commence à trouver que ce job est un peu absurde. Concrètement, à quoi ressemblaient mes journées? Je faisais en sorte que les clients, des marques d'assurance ou de cosmétiques, qui ont payé plusieurs centaines de milliers d'euros pour des publicités, soient contents. Publicités sur lesquelles a priori personne ne clique, sauf par erreur, en émettant un juron. Le matin, je prenais le métro pour arriver vers 9h45 à mon bureau. Je badgeais et, arrivé au premier étage, je m'asseyais devant mon ordi, que je n'allais quitter des yeux que pour des rares réunions. J'engloutissais un croissant en regardant ma boîte mail. Je répondais à mes mails. Je lisais des mails avec plein de mots doux dedans. Brand content, CPM, rich, never done before, disruptif. Je déjeunais, Je reprenais un café. Je planifiais des réunions. Je faisais des comptes rendus de réunions. J'écrivais des mails pour planifier d'autres réunions. Je débriefais des réunions avec mes collègues. Je faisais des brainstorming. Je faisais des PowerPoint. Tout ça pour...
Il y a des choses qui n'ont pas de prix. Pour le reste, il y a...
J'ai commencé à me poser des questions. À quoi je sers ? Est-ce que ce job apporte du bonheur aux gens ? Est-ce que créer des sites publicitaires m'épanouit pleinement ? Est-ce que si mon métier disparaît un jour, quelqu'un va s'en rendre compte ? Est-ce que j'ai payé une école de commerce à 30 000 euros pour envoyer des mails ? Chaque jour qui passait, le sentiment qu'un truc clochait grandissait en moi, sans que j'arrive à mettre le mot dessus. Et puis un jour...
Et si certains boulots ne servaient à rien ? Ils les appelaient les bullshit jobs, littéralement les jobs à la con.
Ce fut une révélation. Bullshit job ou job à la con. Un métier sans utilité sociale ni satisfaction personnelle. À ne pas confondre avec les métiers dits « de merde », ces métiers mal payés, considérés comme ingrats et abrutissants. Serveur chez McDo ou tueur de poulets à la chaîne dans un abattoir. À l'inverse du job de merde, le bullshit job peut être valorisé socialement et permet de briller en société. J'ai demandé à Jean-Laurent Casselli, journaliste et auteur de La révolte des premiers de la classe, une définition plus précise des bullshit jobs.
Bah, moi, j'aime bien présenter aux gens une sorte de, soit de test, soit des questions clés, des questions types qui sont est-ce que votre grand-mère ou un enfant de 7 ans est capable de comprendre votre job ? Par exemple, est-ce qu'on peut le mettre dans un livre pour enfants ? En général, les livres jeunesse sont composés d'illustrations. Il y a très peu de mots, voire pas de mots. Donc les métiers visuels sont vraiment privilégiés. Or, un consultant en organisation, c'est pas très visuel. C'est-à-dire qu'on va dessiner une personne qui est derrière son ordinateur, dans un bureau, probablement dans un open space. Mais cette personne, elle pourrait être chef de projet, elle pourrait être responsable RH, elle pourrait être publicitaire, elle pourrait faire de la finance. C'est pas des métiers que les enfants veulent faire. Quand ils sont petits, ils disent pas, tiens, j'ai envie d'être consultant en transition digitale, quoi. L'autre manière de savoir si on est concerné, c'est de poser la question de ce qui se passerait si toutes les personnes qui exerçaient un bullshit job s'arrêtaient de travailler. Et normalement, si la théorie de Graeber est la bonne, on ne devrait absolument pas s'en rendre compte.
J'ai fait le test et clairement, impossible d'illustrer mon job ni de l'expliquer à ma grand-mère. Pour être vraiment sûr, j'ai décrit mon ancien métier, chef de projet, à Jean-Laurent et voici son analyse.
À Paris, à un moment, j'avais l'impression que tous les gens que je croisais étaient chefs de projet. C'était devenu une sorte de norme professionnelle. Et en fait, on ne sait jamais trop à quoi ça correspond. Déjà, en fait, ça ne décrit pas une compétence professionnelle. Et c'est vrai que le chef de projet, c'est quand même la fonction d'interface par excellence. Puisque en général, c'est quelqu'un qui met bout à bout tous les acteurs d'un projet. Du coup, n'a pas vraiment l'impression de produire quelque chose parce qu'elle est plus dans l'assemblage. Et du coup, c'est vrai que c'est des fonctions dans lesquelles on peut vraiment avoir l'impression qu'il n'y a rien de tangible, en fait, à la fin de la journée, dans ce qu'on fait.
J'en parlais autour de moi et me rendis très vite compte que je n'étais pas la seule à me poser ces questions. J'étais même entourée de gens qui avaient fait de longues études et qui caressaient le rêve de tout plaquer. Ma sœur bossait dans une agence de communication et en garde un excellent souvenir.
Si demain je me casse de mon boulot et que je choisis de... boire des cafés tous les jours au tabac presse du coin de ma rue et genre juste parler avec des gens, je pense que j'aurai un impact meilleur sur la société qu'en faisant mon job.
Si pour ma sœur et moi, concevoir des publicités, ça n'a pas vraiment de sens, Jean-Laurent Casselli m'a rappelé que le sens, ça reste quelque chose de subjectif.
Quelqu'un qui gère des projets dans le domaine de l'assurance va peut-être avoir l'impression qu'il ne sert à rien, alors qu'en fait... Si elle est dans l'organisation, c'est peut-être qu'il y a une raison. Donc il est probable qu'on n'arrive jamais à une définition claire, partagée, consensuelle des bullshit jobs.
Si mon job n'existait pas, peut-être que les gens seraient moins tentés d'acheter des trucs à tout va et qu'ils pourraient lire leur article tranquillement. Mais je n'étais même pas vraiment responsable de ma nuisance. Comme chef de projet, je n'étais qu'un maillon dans une longue chaîne de production. Il pouvait y avoir jusqu'à 6 intermédiaires entre la personne qui grossissait le logo sur la publicité et celle qui en avait donné l'ordre.
C'est un ordre. Et un ordre, ça ne se discute pas, ça s'exécute. Point à la ligne.
Bref, je ne faisais rien de concret. J'étais payée pour être pure intermédiaire. Passe-plat, comme on dit dans le métier. Sans pouvoir de décision, si ce n'est sur le nombre de cafés que je buvais dans la journée.
Je pense que tu peux être le maillon d'une chaîne et être utile au maillon d'avant, au maillon d'après. Mais si la chaîne elle-même est inutile, t'es pas utile.
Avec Constance... On est devenus amis sur les bancs de l'école de commerce. Elle travaille au service comptabilité d'un groupe du CAC 40. Le bullshit job, ça la connaît.
Moi, je me suis dit la première fois que j'avais un bullshit job, quand... En fait, je me suis dit à quoi je sers, enfin, à quoi ça sert ce que je fais. Quelle est vraiment la finalité de ce truc? Est-ce qu'il y a des gens que ça intéresse, à part mon supérieur, par exemple, dans l'entreprise, enfin, qui est-ce qui lit ce que je produis? C'est un peu triste. Bon, voilà. La consolidation, c'est une branche un peu méconnue de la compta, à juste titre, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez artificiel, mais l'idée, c'est que c'est un boulot qui est né parce que l'entreprise, elle grossit. Donc, tant que tu as une boîte à taille humaine, on va dire... T'as deux, trois magasins, par exemple, t'as pas besoin de consolidation. Donc, en fait, ce que produit le consolideur, il produit des comptes, et il produit une plaquette de comptes. Et ces plaquettes-là, le but, c'est qu'elles sont auditées. Donc quand t'es audité, après, ça veut dire que tes comptes sont justes. Donc ça intéresse absolument personne à part des auditeurs. Au total, c'est une plaquette de quoi, allez, 50 pages, 70 pages, et il y a peut-être 150 personnes qui la lisent dans le monde, quoi. Enfin, parce qu'en fait, ça intéresse peut-être 100 investisseurs et, je sais pas, 50 monsieur tout le monde qui ont des actions, quoi, mais c'est tout. Enfin, c'est vraiment très confidentiel comme publication, ça n'apporte rien. Je me dis toujours qu'un bullshit job, c'est un boulot qui n'existerait pas si on n'était pas à l'ère du capitalisme. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est apparu, en fait. C'est pas un travail utile. Si la société n'était pas comme elle est aujourd'hui, ce travail-là n'aurait aucune raison d'exister. Voilà.
J'ai demandé à Jean-Laurent Casselli pourquoi les bullshit jobs existent s'ils sont inutiles.
C'est vrai qu'au début, les jeunes diplômés voulaient tous aller bosser dans les startups parce qu'ils avaient l'impression que c'était cool et que c'était des vrais boulots qui avaient du sens. Bon, assez vite, ils ont déchanté parce qu'on s'est rendu compte qu'en dans les startups, on avait autant, voire plus de process que dans les boîtes à la papa du CAC 40. Quoi. Même pour produire des services complètement dématérialisés, et même surtout pour produire ça, il y a quand même un certain nombre de compétences, de savoir-faire et d'énergie qui est dépensée qui implique un grand nombre de bullshit jobs. Donc il y a par exemple énormément de gens qui travaillent dans le marketing, qui passent leur temps à pousser des sollicitations pour qu'on s'inscrive à telle ou telle app et pas à d'autres. Donc voilà, à la fin de la journée, c'est quand même ça qui fait qu'on bénéficie d'un certain nombre de services. Il y a tout un secteur qui a explosé autour de la numérisation de l'économie et on peut considérer que c'est des bullshit jobs.
Elle vous a dit en quoi consistait mon travail ?
Non.
Erwan, lui, bosser dans le conseil. À lui aussi, on a répété « bosse dur et fais les études qui t'ouvriront le plus de portes ».
J'étais plutôt le bon élève qui suit le parcours assez classique. On va aller faire une prépa, et puis à la fin de la prépa, on va aller en école d'ingénieur, et puis à la fin de l'école d'ingénieur, on va sûrement aller vers le conseil, finalement, là où à chaque fois, on fait le moins de choix possible, et on va vers là où il y a le plus de possibilités possibles.
Il a bossé 3 ans dans le conseil, avant de démissionner pour fonder sa boîte.
J'ai passé un an à bosser pour l'armée française, à concevoir et à imaginer un projet à 10 milliards d'euros, chiffré en une nuit par un de mes managers, pour que ce projet soit jamais lancé. Donc globalement, la satisfaction, elle était un peu différente. C'était plutôt quand moi, j'étais content d'avoir amené quelque chose d'un peu différent dans le système. Mais ça, c'était assez minime, hein. Par exemple, pour un laboratoire pharmaceutique, il y avait une fusion de 2 équipes, ils ne s'étaient jamais rencontrés. Je leur ai organisé un atelier avion en papier où ils écrivaient des petites infos, ils l'envoyaient dans la pièce. J'ai eu ma photo avec des avions partout en l'air. Et eux, ils étaient là. Oh là là, ces petits jeunes, ils font des trucs sympas. C'était marrant, quoi. Mais pas très, très, très intéressant.
Si la finalité externe est un sujet de stress, c'est souvent les processus internes qui rendent fous.
C'est une chose de faire un boulot qui n'a pas de sens aux yeux de la société, comme mon cas. Mais... si en plus ton boulot il te complique la vie, en gros, si t'as des choses débiles à faire mais qu'en plus t'es obligé de les faire de manière débile parce qu'il n'y a pas des bons process ou des bons outils, des bonnes technologies en fait pour t'aider, je pense que c'est là que t'atteins le summum du bullshit job. Moi ça m'est déjà arrivé dans mon boulot, en finance d'entreprise ou en contact, de demander à des gens de m'envoyer des tableaux Excel avec des chiffres. Ces chiffres ils sortaient d'un système auquel j'avais pas accès. Donc ces gens me sortaient ces chiffres, les mettaient sous Excel, me les envoyaient. Moi donc je recevais un fichier Excel qu'ensuite je transformais dans un autre format que je mettais dans mon système à moi. Et au bout de la chaîne, il y avait encore quelqu'un qui ressortait ces chiffres du système et qui les remettait en Excel sous une autre forme. Là, c'est juste qu'il y a des vrais problèmes de process. Enfin, il y a des gens qui n'ont pas réfléchi ou qui veulent pas ou qui n'ont pas le temps ou pas les moyens. Il peut y avoir plein d'explications, mais Le sentiment de faire partie d'une chaîne, de ne pas avoir de valeur ajoutée, ça vient de l'entreprise et de la manière dont elle a conçu ton poste pour moi. Mais, ça me faisait souvent penser à Astérix et le formulaire.
Ce formulaire vous permettra d'obtenir le formulaire rose.
Le formulaire rose.
Il est nécessaire pour l'obtention du laissez-passer A38, guichet 12, deuxième étage, escalier B, couloir J.
Ces processus ont un effet pervers, provoquer un ennui mortel. Chacun développe des stratégies pour tromper le temps. Pour ma part, j'écrivais des critiques littéraires de haute volée et passais un temps infini à éplucher les blogs de voyage. Justine, une amie rencontrée en soirée, avait élaboré une technique de pointe pour tromper l'ennui.
Alors, il y avait une mission principale et quasiment quotidienne, c'était l'intranet de l'entreprise. Donc, ça se résumait uniquement à relire des articles qui étaient rédigés en français, en anglais, en italien et en chinois. Je parle pas un pet de chinois et je parle pas italien non plus. Donc, les articles dans ces deux langues n'étaient pas relus, mais du coup, c'était super important de relire ceux en français et en anglais. Et donc, en fait, une fois qu'ils étaient relus, approuvés par le manager 1, manager 2, manager 3, manager 4, et puis encore au-dessus, et puis voilà, ça n'arrêtait pas de faire des allers-retours. Et une fois que c'était approuvé, il fallait choisir une image très corporate qui correspondait bien à l'article et le publier, et faire en sorte de le publier sur toutes les pages des intranets. Et du coup, vu que les journées étaient super longues, je devenais un peu parano de la petite heure en bas à droite qui s'était sur mon PC. Et en fait, plus je regardais, moins les minutes passaient et j'étais incapable de défaire mon regard de cette heure qui passe. Du coup, des fois, ça m'arrivait de mettre un petit post-it ou une petite gomme pour me challenger et ne pas la voir. Et après, une fois que je l'enlevais, je me disais, waouh, il y a 15 minutes qui sont passées, c'est dingue.
À l'époque, je me rendais pas compte, mais qu'est-ce que je me faisais chier. Je passais des jours entiers à rien branler. Je lisais des thèses de sociologie sur les pubs, sur Internet, parce que j'avais trouvé que ça. On s'échangeait des jeux avec mes potes. Je téléchargeais et je regardais des épisodes au boulot. Alors, en vrai, je suis pas du genre à faire ça normalement, mais j'en pouvais plus, quoi, j'avais rien à foutre.
Alors que ces jobs sont si absurdes, pourquoi tant de jeunes s'y accrochent ?
C'est un peu pareil partout, ça c'est pas que lié au conseil. Hein. C'est parce que les gens, ils ont peur de tenter un mouvement. Ils ont peur d'essayer de faire quelque chose. Ils n'arrivent pas à trouver le moment. Ils ont toujours une excuse. Il y a toujours l'excuse, par exemple, de... Ouais, mais sur mon CV, ça fera mieux si je fais 2 ans et pas 1 an et demi.
Il y a des personnes qui sont convaincues de l'utilité du bullshit job, non pas parce qu'elles ont une utilité sociale, mais parce qu'elles ont une utilité économique. Je pense qu'il y a des personnes qui pensent sincèrement que c'est une bénédiction qu'on ait ce type de travail, parce que mine de rien, c'est un salaire, parce que c'est un poids dans l'économie, etc.
Il n'y avait pas que le salaire. Il m'arrivait d'être contente de me lever pour aller travailler. L'ambiance était bonne avec mes collègues. Le salaire était confortable, je gagnais 2 100 € net par mois, la cantine pas trop infecte, les vacances nombreuses. Sans oublier les primes, les chèques resto, les chèques vacances, qui jouent parfaitement le rôle de carotte anesthésiante.
Et on est confort en vrai aussi, on est confort. Moi j'étais confort dans le conseil à la fin, j'étais bien payé, je travaillais pas non plus énormément, je savais mettre mes limites, j'avais mon réseau, mon cocon. À un moment on se dit pourquoi bouger ? On n'a pas de... Tant qu'on n'est pas en souffrance, il n'y a pas forcément de raison majeure de bouger, en tout cas de si forte. Et en vrai quand on est en souffrance, c'est souvent trop tard pour s'en sortir. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal du coup à juste dépasser la souffrance pour prendre une décision. Ils sont saoulés, à tous les sens du terme.
Moi, je me suis barré à temps, mais un ami d'Erwan en a fait les frais.
Tous mes potes, soit ils se font chier au travail, soit ils ont fait un burn-out. Et il y en a un en particulier auquel je pense. Il n'a pas dormi pendant 2 semaines. Il a fumé un spliff pour essayer de dormir. Il a pété un câble. Il a fait 1 mois d'hôpital derrière. Et quand je l'ai vu, j'ai pas reconnu son mouvement. Comment il était. Il était complètement différent. Je l'ai revu encore une fois 6 mois après, et pff, là, ça allait, il était revenu à peu près lui-même. Mais quand je l'ai vu après ça, j'étais genre, oh, c'est super flippant. Et en plus, c'était le seul mec que je connaissais qui était engagé dans un projet assez stylé, dans une boîte qui lui plaisait, où il était bien, tu vois, normalement.
Bah, je pense que les bullshit jobs rendent malheureux, parce que pour moi, il y a trop de décalage entre la reconnaissance sociale qu'ils offrent, sachant que pour moi, bullshit job, genre, c'est quand même le métier dans le secteur tertiaire où on est cadre ou presque et dont 90% des tâches consistent à décrocher un téléphone et écrire des mails et versus des métiers comme infirmière, éboueur, prof ça paraît hyper naïf parce qu'on sort toujours ces métiers en argument, genre non, ça a une véritable utilité sociale. Mais moi, je pense que ouais, en fait, ça a une véritable utilité sociale.
Après 3 ans de bons et loyaux services dans ma boîte, un jour, il y a eu l'opération de trop. C'était pour une marque d'ordinateur. Le client avait transmis à l'agence média, qui nous avait transmis et que j'avais retransmis à la graphiste, un cahier des charges plus épais que le bottin. On aurait dit un casse-tête pour adultes. L'ordinateur devait être pris en photo sous un certain angle et pas un autre. La marge autour du logo dépendait d'un tas de conditions. Évidemment, les délais étaient hyper serrés. Tout le monde, photographes, graphistes, développeurs, commerciaux, avait fini par péter un câble devant l'exigence d'un client à qui on ne pouvait jamais parler directement. Quand j'ai commencé à faire des cauchemars où je m'imaginais poursuivi par une horde d'ordinateurs en furie, je me suis dit qu'il était temps de partir. J'ai posé ma démission et je me suis barré.
C'est quand même une forme de privilège. Et enfin, moi, ce qui me dérange, c'est pas trop ça. Je pense que la vraie question derrière, c'est plus si chacun quitte le Titanic sur un petit radeau, on ne résout pas vraiment la question structurelle des bullshit jobs et du malaise au travail. C'est-à-dire que ceux qui peuvent s'enfuir le font, mais je pense qu'ils ont raison. C'est pour ça que j'ai appelé le livre « La révolte des premiers de la classe », parce que finalement, comme ce sont ceux qui ont le plus d'outils en fait, et le plus de capacité à rebondir, ils le font. D'ailleurs, c'est un paradoxe parce que c'est ceux qui sont le plus diplômés aujourd'hui qui se sentent autorisés à ne pas utiliser leur diplôme, en fait, quand ils font des reconversions très éloignées de leur milieu d'origine, comme l'artisanat ou du petit commerce. Donc, ceux qui peuvent le faire le font, et tous les autres restent coincés. Bon, moi, j'aime bien rappeler, par exemple, qu'il y a le problème de la souffrance des cadres et des bullshit jobs, mais il y a aussi les gens qui sont dans des call centers, dans des entrepôts Amazon. Et là, c'est des questions de maladies professionnelles, de stress au travail très poussé, avec des gens qui n'ont absolument aucune autonomie dans leur travail. Et là, il y a un vrai souci.
Finalement, parmi mes amis, nombre d'entre eux se sont réorientés. Erwan essaie de changer les organisations pour que les employés soient plus heureux. Constance travaille pour une marque de lingerie. Ma sœur a quitté son job pour bosser dans les énergies renouvelables. Aujourd'hui, je travaille pour une association et je me sens beaucoup mieux. À côté de ça, je fais aussi des podcasts pour...
Arte Radio.
Bon, ça se la pète tout autant, mais...
Quoi ?
C'est quand même vachement moins bien payé.
Comme.
Et voilà, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous sur 48FM pour de nouvelles émissions dédiées à la création sonore et radiophonique. Belle semaine, à bientôt.